On peut en parler en termes d'infinité. Comment ça, il n'y a pas de point de départ. Donc on est riche à chaque instant d'une infinité qui est masquée par l'objet immédiat de la conscience. D'accord ? Bon. Mais en réalité, il y a une infinité de choses qui nous caractérisent, qui vont de l'enfer le plus noir à l'éveil ultime de la bodhiité. Tout cela est contenu dans cette infinité. En cela, les choses sont égales entre elles. Hein ? Bon. Donc Shakyamuni dit, je demeure ici constamment, mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. Donc lui, Shakyamuni, dit que il est en permanence dans ce monde, mais c'est en fonction de la propension des êtres à chercher le Bouddha ou à ne pas le chercher, que les êtres voient ou ne voient pas le Bouddha. Ce qui veut dire que il y a toujours la possibilité, à chaque fraction d'instant, d'apparaître et de vivre dans un monde où il y a l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, où il y a le Bouddha Shakyamuni vivant, ou dans un monde où il y a l'enseignement du Bouddha originel, ou dans un monde où le Bouddha originel est vivant, ou dans un monde où il n'y a pas du tout de bouddhisme. Tout ça, ça ne dépend que de la propension inhérente à chaque existante, seule, et que le Bouddha, lui, ne peut ni apparaître ni disparaître. Donc, il est dit, pour des pouvoirs divins que le Shakyamuni utilise pour être visible à ceux qui le demandent et qui le cherchent, et invisible aux yeux de ceux qui ont des conceptions erronées, à propos de ces pouvoirs divins, il faut voir que les naissances et naissances, apparitions, disparitions de tous les phénomènes sont des effets, hein, sont les causes et conditions qui font qu'un tel naît ou un tel meurt, ou ça se modifie, un cancer, tout ce que vous voulez, un accident. Bon. Donc, en général, les pouvoirs divins que les êtres manifestent les uns par rapport aux autres sont des pouvoirs qui viennent des causes et des conditions. Tout se modifie. Hein? Donc, Nichiren dit, ce qu'on appelle les pouvoirs divins est ce que nous, les êtres, manifestons en chaque acte, à tout moment. Naître, continuer comme on est, se transformer et mourir sont toutes la substance des pouvoirs transcendantaux substantiels des 3000 phénomènes. Autrement dit, ça veut dire que naissance, maintien, dégénérescence et disparition, du fait des causes et des conditions, sont ce que les phénomènes montrent les uns par rapport aux autres. C'est ce qui fait les 10 états, c'est ce qui fait la qualité de vie des uns et des autres, qui voient naître ceci et s'en réjouir, ou disparaître cela et en souffrir. C'est que les uns et les autres, à travers les causes et les conditions, en tant que effet montre naissance, modification, disparition, mais c'est seulement pour permettre l'avidité, permettre la colère, permettre la stupidité, permettre l'orgueil, permettre la souffrance de tout ce qui est à chaque instant, sans que rien n'influence quoi que ce soit.
Mais c'est comme un cahier de soi. Une chose se projette, on voit les facettes de la même du 10 états partout.
Oui, c'est ça, on peut voir ça comme ça.
Les facettes de lumière.
Mais donc, autrement dit, les phénomènes sont tous en appui les uns sur les autres. Les uns apparaissent, les autres se corrompent, les autres disparaissent, mais tout cela, ce n'est que pour satisfaire, c'est une sorte d'harmonie globale, pour satisfaire le besoin de souffrir ou le besoin de se réjouir d'un tel ou d'un tel, qui le perçoit, qui le perçoit pas. Si votre femme de ménage que vous n'avez pas eue depuis 20 ans meurt en Espagne, là où elle était partie, vous allez la prendre dans 8 jours, dans 15 jours, donc vous avez une petite souffrance. Mais si une dame du même âge meurt au-dessus que vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas souffrir. Par contre, si c'est votre mère, vous allez passer des heures à côté, machin, ce moment, restant en vie, bon. Donc, autrement dit, les phénomènes des uns par rapport aux autres montrent naissance, modification, disparition, seulement pour permettre l'apparition de l'avidité, de la colère, de la joie, de la souffrance à l'autre en face qui voit. Donc, il est dit que le corps de la loi, c'est-à-dire ce d'où tous les phénomènes naissent et retournent à chaque instant, hein, l'infinité est phénoménale, donc il dit le corps de la loi peut librement se manifester en un nombre infini d'êtres. Aucun d'entre eux n'a de limite et n'interfère avec l'autre. Cela est incompréhensible pour la pensée dualiste.
Oui.
Donc, du corps de la loi naissent et disparaissent une infinité d'êtres constamment, mais aucun d'eux n'a de limite, comme disait Parménide, Parce que l'être qui naît s'étend à tout, l'étang touche à l'étang, mais bien que tout ce qui apparaît, disparaît, s'étende à tout, en même temps, rien n'interfère avec quoi que ce soit. Il n'y a pas d'influence.
Ça s'appuie, mais ça n'a pas d'influence.
Voilà, ça s'appuie les uns sur les autres, mais ça n'a pas d'influence. Le seul moment où une influence va se manifester de l'un par rapport à l'autre, c'est la voie de l'éveil. Donc c'est notre pratique qui va influencer. Mais hormis notre pratique qui influence, tout ne fait que donner ce que l'autre a envie de voir. Sans commencement ni fin.
Pourquoi la pratique influence finalement? Pourquoi elle joue ces deux cartes-là?
Parce que l'état le plus élevé, c'est l'état de Bouddha, l'état d'éveil. Si on considère les six premières voies, tout n'est que effet. Enfer, avidité, animalité, colère, jeu temporaire. Mais ça, c'est que effet. Donc ça apparaît sans commencement ni fin, sans jamais de point de départ. Et en dehors de ce cycle où toutes les six voies, le cycle des six voies répétitifs, en dehors de ce cycle, il y a la lumière qui va vers l'éveil. La lumière qui va vers l'éveil, c'est le fait d'entendre la loi, le fait de la pratiquer, le fait de développer cette bodhisattva et enfin atteindre l'éveil. Eh bien, vis-à-vis de cette voie lumineuse, somme toute, il y a une propension de ce qui souffre à arrêter la souffrance. Donc, cette propension de ce qui vit à arrêter la souffrance, à trouver enfin la tranquillité, ou à trouver enfin un moyen d'être dans la joie ou le bonheur ou le bon, cette propension fait qu'il y a des êtres qui vont s'engager sur la voie de l'éveil. Eh bien, ces êtres s'engageant sur la voie de l'éveil, qui deviennent tout doucement cause d'eux-mêmes, entraînent tout ce qui leur est propre avec eux dans cette voie. Donc, c'est comme Nichiren, quand il est apparu au Japon, il a été haï par toute la population. Rarement quelqu'un a été aussi haï que lui. Donc il a été battu, il a été décapité, il a été exilé deux fois, il a été... Bon, c'est pas facile quand même. Mais le souverain de la loi dit que, d'un côté, la totalité du peuple s'est rebellée contre lui, parce qu'il a été vu comme un salopard, destructeur de temple. Il dit, mais profondément, Nichiren a touché, de par sa présence, l'état de Bouddha des êtres qu'il a comme secoué. Il a comme secoué pour emmener vers. Mais ça, c'était pas visible de l'extérieur. De l'extérieur, le gouvernement n'était pas d'accord. De l'extérieur, les gens disaient c'est un salaud, faut l'exiler, machin. Donc, rien n'était visible sur un plan visuel comme ça. Mais ce qui fait Nichiren, c'est ça. Le fait qu'il apparaisse au Japon, c'est créer des liens avec une infinité d'êtres, les gens qui sont à son époque, et les diriger doucement vers l'éveil à travers leurs troubles, grâce à leurs troubles. Nous, on fait pareil.
Donc, il y avait une couche de souffrance et une couche de non-souffrance, finalement.
Alors, il y a que de la souffrance, en général.
Hein, mais si on passe au-dessus de la souffrance, on se retrouve dans l'éveil.
C'est qu'en fait, au sein de...
Comme tu disais, on ne souffre que de ce que l'on pense.
Oui, parce que c'est un effet, toujours.
Donc, à un moment donné, justement, dans ce courant qui va vers la lumière, que tu dis, aller vers l'éveil, on sort de la souffrance.
Voilà, si on entend... Et si on pratique, ça c'est le fait d'entendre là, qui Zizi dit ça, il dit l'audition de la loi est comparable à un tremblement de terre. Or, qu'est-ce qui se passe quand la loi est entendue? Mais pour que la loi soit entendue, il faut que quelqu'un la en parle. Bien sûr, hein, bon. Mais l'audition de la loi est un tremblement de terre, c'est-à-dire que l'individu qui avait les racines de ses sens figées dans la terre, lorsqu'il entend la loi, même s'il la refuse, ça provoque un tremblement de terre qui fait que ces racines se trouvent moins emprisonnées dans la terre figée et glacée. Donc le fait d'entendre la loi libère les racines qui commencent à bouger, à pouvoir se vivre enfin, et finalement à s'orienter lui-même vers l'éveil parce qu'il a été brusquement heurté par ça. Eh bien c'est ce que fait le Bouddha. C'est ce que font les bodhisattvas, c'est ce que nous faisons nous en pratiquant et en enseignant tant qu'on peut la loi. On intervient comme un tremblement de terre dans l'esprit de l'être. Autrement dit, que l'être entende, commence à pratiquer et atteigne l'éveil un jour, ou entende, ne commence pas à pratiquer et s'oppose, c'est pareil. Pour nous, on verra des différences si un tel a commencé à pratiquer, l'autre n'a pas commencé à pratiquer, donc nous, on notera des différences, mais profondément, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de faire entendre la loi.
Juste pour nous et pour les autres.
Et pour les autres. Bien sûr.
C'est ça la seule action.
C'est la seule action qu'on a, c'est de faire quitter les six voies à tout ce qui est. Donc, on pratique pour eux, on leur parle, on les voit, on les supporte, et en fait, on les entraîne bon gré mal gré. Et c'est là qu'au fur et à mesure, on réalise que pratiquer matin et soir, c'est l'expression de la bienveillance du Bouddha. C'est qu'au début, on commence à pratiquer pour draguer la nanette du troisième, ou pour avoir plus d'argent, pour guérir d'une maladie, un truc comme ça. Et au fur et à mesure qu'on pratique, la pratique devient plus difficile. Ça devient dur le matin de faire gongyo, pratiquer une heure, machin. Et une fille qui en parlait à Maury un jour, Maury lui a dit, c'est normal que ce soit plus difficile, parce qu'au début, on pratique pour nos propres problèmes. Alors, au fur et à mesure qu'on pratique, en fait, on pratique en entraînant les autres. Donc, c'est plus dur. C'est pour ça que la pratique est plus dure au fur et à mesure. Parce que notre pouvoir d'entraînement, que ce soit visible ou pas, quantifiable ou pas...
Oui, moins, on a moins de moteurs, parce que enfin, c'est vrai que si on pratique pour un petit peu de choses de la vie, on est centré.
Oui, c'est...
Comment après, si ça s'élargit, on se... la pensée...
À notre insu, hein, c'est à notre insu. Hein,
en fait, en plus, on ne voit pas les résultats.
On ne voit pas les résultats.
On voit pas les résultats. C'est dur, je trouve.
Oui, mais par contre. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que.
On peut les attribuer à autre chose.
Par exemple, là, je quitte le cours, mais c'est pas grave. Dans son traduit Lotus, il est dit que les gens qui, enfin, chacun dit que les gens qui pratiquent obtiendront une vie paisible dans ce monde et une bonne renaissance dans le futur. Là, c'est ce qui est dit dans le sutra. Ziyi en Chine dit que avoir une vie paisible dans ce monde et une bonne renaissance dans le futur, ça signifie voir la rétribution de l'effet dans la cause de la rétribution. Pour lui, c'est voir dans l'acte l'effet de l'acte qui est vivre une vie paisible dans ce monde et avoir une bonne renaissance après. Donc pour Ziyi, l'acte est perception du résultat futur. Ça, c'est la même chose. Produire l'acte de réussite d'Aimoku et voir l'éveil futur, c'est un. On Ziyi dit ça, avoir une vie paisible dans ce monde. Et sur la même phrase, avoir une vie paisible dans ce monde et renaître après dans un machin favorable, Nichiren dit, l'apparition des difficultés est vivre une vie paisible dans ce monde. Mais les deux sont vrais. D'un côté, dans notre vie, on peut vivre en ressentant à un moment ou plusieurs moments que dans la cause de rétribution, il y a l'effet de la rétribution. On peut le sentir physiquement. Voir que ce que l'on récite est l'éveil qui arrive. Pour ça, on peut le ressentir. Mais aussi, Nichiren a raison, dans la mesure où vivre une vie paisible dans ce monde, c'est lever autour de soi une opposition extrêmement violente contre soi. C'est ça la vie paisible. Si, bien sûr. Si l'état est paisible. Par contre, vu de l'extérieur, tu soulèves une opposition à travers la communication de ta famille par rapport à ce que tu faisais, ou n'importe quoi. Mais lui, Nichiren, il levait le Japon contre lui-même, bien sûr. Et donc, il dit, la vie paisible, c'est ça. C'est arrivé à un point où, de par ta pratique matin et soir, tu lèves tous les troubles des êtres contre toi. C'est ça, vivre une vie paisible en ce moment. C'est drôle, non? Bon, donc on y revient. Bon, on arrête si vous...
Je serai pas en vacances.
On arrête si vous... Si vous en avez marre, on arrête, hein.
Non.
Donc, en somme, on disait que les... Enfin, Nichiren disait que les pouvoirs divins, c'est ce que les êtres manifestent à chaque instant en naissant, en mourant, ou en s'altérant. Et le souverain de la loi dit les choses suivantes. Les êtres, donc humains ordinaires comme nous, voient tout à l'envers et ne perçoivent pas le principe véritable. Les êtres possèdent une vision illusoire de la vie, du quotidien et de la vérité. Les êtres ignorent que l'apparition, la pérennité, les transformations et la disparition du monde des phénomènes représentent les pouvoirs transcendantaux du Bouddha. Autrement dit, que les choses naissent et disparaissent, c'est uniquement en regard de l'éveil. C'est l'expression des pouvoirs transcendantaux du Bouddha. Pourquoi ? Parce que tout se meut en relation avec la qualité de vie la plus élevée. Tout ce qui est se meut en direction de la qualité de vie la plus élevée, comme étant une quête, parce que la souffrance, ça va à un moment.
Il n'y a pas l'apathie.
Vers le mur olingerio. Voilà. Tout ce qui est,
cherche
à être. Voilà. Tant inconsciemment à un plus, à un mieux. Alors, il le cherche. C'est vrai que le
On voit pas.
On voit pas ça. Non, mais aussi, un ours qui chope une gazelle et la bouffe, il va dans le sens d'un mieux. Il a peur, il veut se repaître. Donc tout va dans le sens d'un mieux. À travers la vérité, la stupidité, la colère, la joie. Les abrutis qui font la bourse, qui gagnent de l'argent, bon, c'est pareil, ils vont vers un mieux aussi. Ils le cherchent mal, n'importe où.
Mais
ça gère la vie. Hein? Non, mais ils cherchent de l'argent, en pensant que quand ils auront de l'argent, ils seront heureux. Mais après, ceux qui ont de l'argent, ils cherchent quoi pour être heureux? Ils savent plus. Donc eux aussi, si l'argent n'arrive pas à leur rendre heureux, faut qu'ils vont dans un sens, ils cherchent. Peut-être ça peut être le suicide. Mais donc tout le monde cherche. Donc tout ce qui est va dans le sens d'un mieux. Ce mieux est l'état de Bouddha. Mais, quand on commence à pratiquer,
oui,
on le sait.
S'oppose.
Oui, bien sûr.
Tout le monde pense qu'il va, qu'il cherche le bonheur.
Tout le monde. Ouais. Mais, tout va dans le sens.
Mais la plupart des êtres, je veux dire, vont montrer aussi leur propre malheur.
Ah, ça n'arrive jamais. Mais c'est là que nous sommes là.
Mais tous croient qu'il s'est ennuyé.
Oui, évidemment. Personne ne va dans le sens du plus grand souverain en général. Tout le monde va dans le sens d'un mieux, d'une paisibilité, d'une tranquillité, de la joie ou du plaisir. Tout le monde va dans le sens. Les gens ne cherchent que ça.
Si on a sommeil, on a envie de dormir.
Voilà. Ah, si j'avais 50 chaînes de télévision, je serais plus heureux si je n'avais que 3. Je serais plus de choix. Donc on va tous dans le sens toujours d'un mieux. Donc tout ce qui est va dans le sens
selon,
de l'éveil.
Selon l'état, sans la pratique, je trouve que le mieux, chercher, c'est le. C'est plutôt la tranquillité.
Chez l'humain, oui.
Il y a des gens qui détestent être immobiles, immobile, voilà. Dans la tranquillité. Mais ils vont chercher à marcher très durement,
oui,
au dehors de l'Himalaya.
Oui, d'accord. Mais puis, oui, pas, déjà, il faut quand même déjà être tranquille sur un plan matériel, etc. Mais tu vois, je veux dire, les gens, ils cherchent en fait. Alors qu'en fait, il y a des guerres, des machins, etc. Je veux dire, bon, les gens, c'est le cas de tout le monde. Je veux dire, les gens, ils vont se dire, oui, effectivement.
Non, la fille qui a traversé la rame, l'Atlantique, alors qu'elle elle cherchait pas la tranquillité, quelque part, c'était la peur, c'était le...
Oui, ou la notoriété, le pouvoir, l'orgueil, le
social. Oui, effectivement, là, c'est déjà un professionnel.
Mais quelque part, c'est pas un même.
La reconnaissance, par exemple. Les gens pensent que le bonheur, c'est trop d'avoir reconnu.
Ou se donner un défi à soi-même. Enfin, je veux dire, se dire, moi, je peux faire ça.
Je peux me dépasser.
On m'avait dit que je ne pouvais pas, mais je pourrais.
Mais au sein
de toutes
ces sortes de souffrances, il y a une propension vers le mieux. Verra mieux.
Oui. Mais le mieux, le problème, c'est que le mieux est perçu différemment par les
gens. Ah, mais oui.
Et donc, les mieux,
le problème n'est pas le même.
On continue. Donc, vis-à-vis de cette propension des êtres vers l'éveil, donc est-ce qu'on le voit ou pas, bien sûr. Quand Nichiren disait, nous l'avons cité, le passé infini est l'origine, le présent est l'éphémère, il poursuit en disant, Nichiren, présent en permanence dans les trois phases, fait naître le bienfait au degré de dénomination. Donc non seulement il dit que le passé infini est l'originel, mais que le présent est l'éphémère, mais il dit Nichiren, présent en permanence dans les trois phases du temps, fait naître le bienfait au degré de dénomination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le commentaire du grand patriarche, ça veut dire que Nichiren est le Bouddha de l'origine du passé, dans ses ports le temps, en même temps qu'il est apparu au Japon au XIIIe siècle pour laisser la loi que l'on peut nous réciter au degré de dénomination, Nam-myoho-renge-kyo, et souvent la loi dit que ces phrases établissent l'identité du passé infini et de l'époque de la fin de la loi, notre époque. Et identiquement, donc, l'identité de l'époque de la fin de la loi et du passé infini. Autrement dit, nous sommes le passé infini maintenant. Ça n'a jamais été autre. Tout ce qui est immuable. Tout ce qui est immobile. Et il dit en outre que dans cette phrase, le passé infini est l'origine, le présent est l'éphémère, Nichiren présent en permanence dans les trois phases fait apparaître le bienfait, il dit qu'en fait, l'enseignement du Bouddha originel a toujours existé, avant Shakyamuni et après, et il dit que il révèle dans cette phrase la graine insurpassable, donc la graine pour l'éveil, la graine insurpassable qu'est Nam-myoho-renge-kyo Nichiren du Hanzong. C'est là que réside la merveille au-delà des comparaisons relatives. Autrement dit, la graine, c'est uniquement le Namuro Rengekyo Nichiren dans le Gonzon, objet devant lequel on pratique. Et il dit que c'est l'éveil intérieur de l'unicité de la personne et de la loi. Autrement dit, il n'y a pas de loi antérieure à la personne, il n'y a pas une personne antérieure à la loi. La loi est EST la personne est EST la loi, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de loi avant le phénomène, qu'il n'y a pas de phénomène avant la loi, mais que les phénomènes sont la loi. Et ça, ça n'a pas de point de départ. Il n'y a pas de création. Tout est immobile, c'est les 10 mondes. Les 10 états dans les 10 états, toujours, toujours. Donc Nichiren dira, la pratique qu'effectue à présent Nichiren, donc Namuro Rengekyo, ne diffère en rien de l'attitude au degré de dénomination dans le passé infini. Lorsque Shakyamuni s'est éveillé dans le passé infini pour la première fois, donc il a eu l'effet de l'éveil, c'était le Namuro Rengekyo que Nichiren pourra au XIIIe siècle. Ce qui, pour la logique visuelle, est incompréhensible, puisque l'avant n'est pas l'après, et ainsi de suite. Mais en fait, plus profondément, il n'y a pas de temps.
Oui, donc il y a cette avance,
cette avance. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a, que la qualité.
Oui, mais c'est quand même...
Or, oui. Juste pour finir, il n'y a pas de temps dans lequel on s'est plongé, il n'y a qu'une qualité qui est celle de l'enfer jusqu'à l'éveil. Cette qualité, c'est la qualité de ce que l'on est à l'instant. Et cette qualité est un acte. Soit la qualité est un effet, dans ce cas-là, c'est les 6 voies. Soit la qualité est un acte, et c'est Namuro Rengekyo. Donc la pensée n'est pas utile. C'est seulement le fait de réciter Namuro Rengekyo qui est l'apparition de l'éveil. Le reste, c'est les 6 voies qui n'arrêtent jamais, qui ne commencent jamais. Donc, on n'est pas dans le temps, on est permanent, tout est permanent, mais l'important, c'est la qualité de l'acte physique. Donc, réciter Namuro Rengekyo, c'est la seule chose qui soit importante. Donc, on terminera là-dessus, parce qu'il est tard quand même maintenant. Donc, Nichiren dit, ce qu'il convient de réciter sans cesse, en suivant véritablement la pratique parfaite, est Namuro Rengekyo. Ce qu'on doit garder dans notre cœur est la contemplation de la loi d'une pensée 3000. Telle est la pratique et la compréhension du sage. Le nom possède la vertu d'aboutir immanquablement à la substance. Dans le monde humain, jamais, 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 un nom ne touche l'objet. Les gens disent actuellement pragmatique, pragmatique. C'est les conneries. Le pragma, c'est le sens. C'est pas le référent, c'est pas l'objet. Il y a onoma qui est le nom, pragma qui est le sens. Pour l'humain, il n'y a que le nom et le sens. Le nom et le sens, c'est rien, c'est le concept. Ça n'aboutit à rien. Jamais l'objet n'est touché. Dans l'enseignement du bouddha originel, le nom est EST, la substance. Autrement dit, le nom, Namuro Rengekyo, est l'état. Donc, en récitant, l'état est. Nous, on produit en tant que effet. En outre, quand il dit, quelle est la pratique et la contemplation, quelle est la pratique et la compréhension du sage? Le sage, c'est l'éveillé. Sa pratique, c'est Namuro Rengekyo, qui est donc sa compréhension. Pratique et compréhension ne sont qu'une chose. Il agit en fonction de son état. Le corbeau va coasser en fonction de son état, le kangourou fera un truc en fonction de son état, donc, comment dire, l'action, la pratique et la compréhension sont toujours une seule chose. Mais à nous, on nous dira, plutôt que pratique et compréhension, on dira croire et comprendre. Veuillez croire et comprendre, donc je crois de finir, veuillez croire et comprendre. Pourquoi? Parce que si la pratique pour le Bouddha, la pratique, donc l'action, est la compréhension, pour nous c'est le fait de croire qui va nous amener à sa pratique. Et la compréhension va aussi naître. Donc il ne s'agit pas de comprendre pour pratiquer, mais de croire, donc d'accepter la pratique pour comprendre. Donc pour nous, croire, ne pas rejeter, et la merveille de la cause originelle. La pratique, c'est l'effet. Mais la pratique de l'enseignement amène la compréhension de l'enseignement. C'est ce qu'on fait matin et soir. Bien, je vous remercie. À plus. On n'a pas été bien loin. Ah, une dernière quand même, parce qu'elle est mignonne. Allez, c'est fini. Une dernière. Voilà. Nichikan Shonin dit que, au sujet de la loi, Myoho-Langekyo, on vient de dire que le nom est EST, la substance. Nichikan dit que, selon la doctrine de cette école, la réalité d'une pensée de 3000, du Bouddha, est une réalité tangible. Si bien que la réalité de la loi est fondamentalement l'expression concrète d'une pensée de 3000. C'est pourquoi on l'appelle objet fondamental de vénération du principe d'une pensée de 3000, parfaitement matérialisé. Pourquoi? Parce que une pensée de chaque chose ou de chacun à chaque instant, c'est toujours un corps. Que ce soit dans l'avidité, la stupidité, la colère ou la joie, il y a toujours un corps qui a cet objet mental. Dans l'éveil, c'est pareil, c'est un corps dans lequel l'éveil apparaît. Donc forcément, Myoho-Langekyo est une réalité tangible. L'éveil du Bouddha est une réalité tangible. C'est l'objet dans lequel on pratique. Quand au début nous disions, enfin, Nichiren dit, la voie pour devenir Bouddha, c'est les deux lois de la sagesse et de l'objet. C'est pas notre sagesse et l'objet qu'on perçoit. C'est l'objet que le Bouddha voit, c'est-à-dire le Honzon, qui va nous amener, en récitant Daimoku, à faire apparaître notre sagesse qui fusionne avec l'objet. Hein? Et pour finir, Shakyamuni, saint siècle avant Jésus-Christ, a dit, lorsque le nom et la forme ont été complètement compris, alors je dis qu'il ne reste rien de plus à accomplir. Le nom, c'est Myoho-Langekyo, la forme, c'est l'objet fondamental de vénération. Shakyamuni a dit, que ça c'est vu, on n'a rien à rajouter. Mais il n'a pas pu l'enseigner. Mais il le savait.
Parce qu'il était écrit.
Et parce qu'il a récité aussi, bien sûr. Comme ici. Et bien voilà, je vous remercie.